Bonjour à tous et à toutes. C'est une grande joie pour moi d'être au milieu de vous ce matin. Joie des retrouvailles, mais aussi joie des visages nouveaux. Et l'église de la Bonne Nouvelle est une église qui vit. Et je dois dire que je ne reconnais pas grand-chose. Ma maison a bien changé. Il me manque les ventilateurs que je vois toujours en Afrique, mais je m'y fais. Donc, oui, joie d'être là et je vous propose, avant de méditer avec vous le texte des disciples d'Emmaüs, de dire quelques mots sur Dakar. Donc, je suis à Dakar, effectivement, depuis le mois d'août. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis veuve et puis j'ai 3 enfants, Quentin, Sarah et Clémence. Et j'ai la joie aussi d'avoir une charmante belle-fille, Clara, et qui voilà, est pour moi un vrai rayon de soleil. Donc quelques mots sur Dakar, 94% de musulmans, 5% de chrétiens, 1% de croyances traditionnelles, donc 3 millions d'habitants. C'est toujours un défi pour les chrétiens de ne pas faire de mélange avec les croyances traditionnelles, et c'est vraiment toujours un défi de rester ancré dans la parole de Dieu. Ce qui me convient très bien, c'est qu'il y a 27 degrés en moyenne et du soleil tous les jours. Donc, je travaille à l'école Jean Mermoz, qui est une école française, un lycée français, 2500 élèves du CP à la terminale. C'est, on peut dire, l'école la plus prestigieuse de l'Afrique occidentale. Et pour moi, c'est un vrai cadeau du Seigneur aussi professionnellement, de pouvoir travailler là-bas. On est à la pointe au niveau de la technologie et on a des formations pédagogiques vraiment très intéressantes. J'ai une classe de CM1 avec 26 élèves et des élèves qui viennent du monde entier. Donc ma classe est très colorée et je suis là-bas pour 3 ans au moins. Je suis aussi engagée dans l'église baptiste de Dakar et je vous transmets leur chaleureuse salutation. Je vous remercie aussi beaucoup pour tous les dons que vous avez fait pour l'église là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, à peu près, il y a 80 enfants, une centaine de jeunes, quand je dis jeunes, c'est de 20 à 30 ans, et puis on va dire encore peut-être une centaine de personnes de 40 ans, voilà, et plus. Donc, beaucoup de jeunesse et beaucoup de besoins, et donc tous vos dons, j'ai quasiment pu remplir mes 2 valises, pour apporter pour la garderie en particulier et des livres. L'église de Dakar prie pour vous et vous remercie. Donc il y a une sorte de partenariat qui se fait, que ne vous voyez pas forcément, mais qui se transmet dans mes valises et puis aussi vraiment là-bas dans la prière. Nous avons vécu un temps fort d'évangélisation auprès des enfants du quartier avant que je vienne. Il y a des choses curieuses en Afrique, mais nous avons pu distribuer les cadeaux de Noël juste avant Pâques. voilà, donc c'était à vivre. En fait, l'église de Dakar reçoit de très beaux cadeaux de Noël de la part d'églises du Canada et des États-Unis pour les enfants du quartier, pour permettre l'évangélisation. Et c'est beaucoup d'énergie pour l'église parce qu'ils vont dans le quartier et ils distribuent des tickets d'invitation aux enfants. Et les enfants n'ont le droit de venir qu'avec leur ticket d'invitation. Et nous étions à peu près 180 enfants du quartier, essentiellement musulmans, parfois avec leurs parents. Et ils ont pu entendre parler de l'Évangile. Et tous les samedis maintenant, ceux qui veulent peuvent revenir. Et ils ont reçu donc un cadeau. Alors oui, les défis ne sont pas les mêmes ici et à Dakar, mais cette recherche constante de plaire à Dieu, d'avancer dans la vie de prière, de méditation, marcher de progrès en progrès, est très forte ici comme là-bas. Et cela me réjouit et m'encourage. Que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, continue l'œuvre merveilleuse qu'il a commencée en chacun d'entre nous et dans l'Église. Alors, à côté de mon travail et de l'église à Dakar, j'ai donné quelques cours d'alphabétisation à des missionnaires brésiliens, mais maintenant, ils sont opérationnels, donc mon service s'est terminé, et ils sont dans des centres de santé ou dans des écoles. Je donne aussi une aide ponctuelle à l'école maternelle de l'église, qui comporte pour l'instant 2 sections. Ils aimeraient s'agrandir. Pour l'instant, il n'y a pas les locaux. Mais en Afrique, tout se fait. Donc nous prions pour qu'en septembre, nous puissions ouvrir une nouvelle classe. Et on verra comment cela se fera. Je donne aussi quelques formations pour d'autres enseignants, aussi dans d'autres écoles des églises. Régulièrement, je travaille aussi à la Médina, qui est un quartier populaire de Dakar, où je donne du soutien scolaire pour les enfants des rues. Donc là, c'est plutôt un service dans une structure laïque. Et donc ça permet aussi d'avoir un certain rayonnement. Je me suis aussi engagée à l'association Trade Union, qui me permet de visiter Dakar. Et là, c'est plutôt avec du personnel des ambassades ou alors des intellectuels, des écrivains. Et c'est pour moi aussi une joie de partager l'évangile dans ce milieu-là. Et donc, les liens se tissent également. Et mon projet, c'est de travailler à la pouponnière de la Médina. Je n'ai pas encore pu le faire. Je voulais commencer en avril, mais l'église m'a beaucoup sollicité. Et donc, je vais un petit peu m'occuper de ces enfants. Ils ont besoin de bras. Et pour donner les biberons, les changer, etc. Et ce sera le samedi matin, si Dieu le veut. Donc oui, c'est la joie de l'Évangile qui me porte et me pousse à être au service de Jésus dans ses différents domaines. Ici comme là-bas, vous et moi, nous sommes témoins de la grâce et l'amour de Jésus. Oui, car c'est bien le Christ ressuscité qui change les vies et offre une nouvelle espérance où que nous soyons. Et je vous invite à lire donc Luc 24, les versets 13 à 35. J'ai choisi la Bible du Semeur. Alors j'ai eu quelques soucis techniques pour projeter, donc si vous voulez suivre dans votre Bible, et je vais en faire la lecture. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs. Luc 24, versets 13 à 35. Un village nommé Emmaüs à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnées. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois ?» Le jour baisse et le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Je termine ici la lecture.
Ah, ça a été affiché.
J'ai intitulé, donné un titre à cette méditation, « De la tristesse à la joie et de la joie au partage ». Et je vous propose simplement de cheminer quelques instants avec les disciples d'Emmaüs. Verset 17, nous lisons « Ils s'arrêtèrent, l'air attristé ». Les deux disciples ont vécu des événements tragiques et éprouvants depuis 3 jours. Violence de l'humiliation, de la crucifixion, mais aussi tous leurs espoirs déçus. Tout ce qu'ils avaient imaginé, attendu, s'effondre. Même le récit des femmes ne change rien. Plus d'issue, plus d'espoir, plus envie, plus motivé, plus de sens. Leur marche est au ralenti. Leur vie suspendue à un non-sens. À nous aussi, il arrive, tôt ou tard, aujourd'hui, hier ou demain, que l'épreuve surgit. Chômage, maladie, deuil, avenir incertain, des études difficiles, une vie de couple parfois qui s'enlise, les enfants qui nous échappent et font des choix qui nous inquiètent. La solitude qui devient pesante avec toutes ses attentes, le corps qui perd de ses facultés et ses prières que nous formulons depuis des années, peut-être pour la conversion de personnes qui nous sont chères, pour la recherche d'un conjoint, pour être délivrés de l'une ou de l'autre dépendance. Ces portes qui ne s'ouvrent pas, qui se claquent. Alors, qu'est-ce qui nous préoccupe ? Pourquoi avons-nous l'air parfois si triste ? Est-ce que la tristesse étreint-elle mon cœur au point de prendre toute la place ? Parce que cette tristesse peut pénétrer au plus profond de l'âme et rendre malade tout le corps. Nous pouvons lire dans Proverbes 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Les disciples d'Emmaüs, eux, s'éloignent de Jérusalem. Peut-être s'éloignent-ils de la foi ? Reviennent-ils à la case départ ? Mais Jésus sait, voit et tient compte des émotions de ceux qu'il aime. Il ne nie pas la tristesse. J'entends, je vois, je comprends ta tristesse. Mais il questionne à nouveau. Parfois, cette tristesse peut aussi naître de changements. Et quand je parle aussi de cette tristesse qui peut être personnelle, je pense aussi à l'Église en tant que communauté. Parfois, nous pouvons être tristes devant des changements qui s'annoncent, pas toujours évidents. J'ai ouï dire qu'il y a peut-être changement d'un pasteur, ou eh bien, peut-être parfois notre cœur peut aussi être triste. Mais Jésus est là et il nous accompagne. Oui, verset 15, Jésus s'approcha d'eux et les accompagna. D'autres traductions disent « Jésus fit route avec eux ». Jésus écoute, marche, et il rejoint chacun d'entre nous dans notre vie, au plus profond de nos creux, au plus profond de nos espoirs déçus, de nos attentes, mais aussi de nos décisions et de nos choix. Il nous rejoint. Il s'approche, il écoute, parce qu'il est vivant, et voilà qui change tout. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la recherche du bonheur, du bien-être. Cela semble être une grande préoccupation pour nos contemporains, et beaucoup de méthodes fleurissent. Alors à l'école, on m'a une fois dit, « Emmanuel, alors toi tu connais sans doute l'approche Ho'oponopono, parce que j'ai lu des documents, me dit ma collègue, sur Ho'oponopono, et c'est tout à fait toi. » Alors moi, la méthode Ho'oponopono, j'étais vraiment ignorante. Mais un jour, à l'aéroport, dans un de mes périples, je me suis procuré un très bon magazine dont le titre était « Cultiver son optimisme et simplifier sa vie ». Voilà ce qu'il aurait fallu aux disciples d'Emmaüs. Cultivez votre optimisme et simplifiez-vous la vie. Et dedans, dans ce magazine, il y avait la fameuse approche Ho'oponopono en 4 étapes pour être en paix. Mais il y avait aussi la spiritualité Maasai pour se recentrer ou se relier. La voie Lakota pour retrouver équilibre et confiance. Et le tout avec exercice à la clé à faire quotidiennement. Bien sûr, je pourrais aussi parler de l'énergie du baobab qui ressource une de mes collègues en particulier. Mais nous, que dirions-nous, nous ? Jésus-Christ est le vivant. Non seulement il est ressuscité, mais il est le vivant, le Verbe, la parole qui nous rejoint, nous comprend, nous saisit. Aucune technique, aucune méthode, aucune approche ne peut pallier au besoin le plus profond de notre âme d'être relié et réconcilié avec notre Créateur. Ne nous laissons pas séduire, ne faisons pas d'amalgame, de mélange. Et je me permets de citer Paul Wells dans un de ses livres qui se trouve à la bibliothèque, Itinéraire de la vie chrétienne. Je cite, « Jésus ne nous propose pas de techniques à appliquer dans le domaine spirituel, de méthodes de respiration, de relaxation ou d'élimination de toxines. Le modèle biblique de la spiritualité est beaucoup plus exaltant que ses recettes. En effet, Jésus s'offre à chacun de nous, personnellement, comme un exemple de vie sainte. Sa spiritualité est un modèle d'obéissance à Dieu, de lutte contre le mal et de victoire sur la mort. La spiritualité chrétienne est à cette image, Jésus marche avec nous. » Et je termine ainsi la citation. Jésus marche avec nous, lui, le vivant. Et c'est sa présence qui rejaillit dans tous les domaines de notre vie. Alors ne m'attendez pas à la sortie pour me dire ce que je n'ai pas dit, en ce sens que oui, la relaxation peut être une bonne chose, oui, les exercices de respiration peuvent être une bonne chose, mais n'en faisons pas des méthodes et une recherche constante, car tout se trouve, toute plénitude se trouve dans notre Seigneur Jésus. Et en lui, notre âme trouve son repos et toute la relaxation dont nous avons besoin. Mais tout de même, Jésus, que fait-il sur ce chemin, loin de Jérusalem ? Ne devait-il pas rester à Jérusalem pour montrer à tous qu'il est ressuscité ? Jésus fait un détour parce qu'il veut être consolation pour les disciples d'Emmaüs. Il fait un détour par amour et par grâce. Il fait un détour parce qu'il prend le temps. Il accepte, oserais-je dire, de perdre du temps parce qu'il sait et connaît l'essentiel, ce qui est important. Alors apprenons, nous aussi, à l'école de notre Seigneur Jésus, à faire des détours parce que notre frère ou notre sœur a besoin à un moment ou à un autre d'être soutenu ou encouragé. Oui, nos emplois du temps sont overbookés. Pas le temps de s'arrêter, pas le temps d'écouter, pas envie parfois non plus. Mais sachons discerner au long de la journée les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Et parfois, cela nous demandera de faire un détour. Est-ce que l'efficacité se fait au détriment parfois de l'autre ? Apprenons à lâcher prise et à nous mettre à l'écoute du Seigneur. Oui, Jésus s'approche, marche, accompagne et parle. Oui, Jésus parle et quand il parle, c'est percutant. Ses paroles ont le mérite d'être claires. Il coupe court à cet esprit d'abattement et sa parole ouvre une route nouvelle, un esprit nouveau. C'est la parole des pas de Dieu dans le cœur de l'homme. À chaque battement, il frappe à la porte. Il se dit à nous. Oui, parole de Dieu dans les mots des hommes. Dieu est le Dieu du langage, de la parole, mais pas des non-dits, des malentendus ou des sous-entendus. Oui, Dieu du langage, mais l'entendons-nous? Prenons-nous le temps de nous mettre à son écoute pour faire silence? Au mois de février, à l'église de Dakar, c'était le mois de la famille. Et je regrette beaucoup que vous n'ayez pas pu assister à ce mois-là, parce que c'était, je dois dire, très croustillant, mais aussi de nombreux défis et combien stimulant. Mois de la famille en février, toutes les études, réunions de prière et messages portaient sur la famille. Et chaque année, à l'église de Dakar, les papas, les mamans et les jeunes prennent des résolutions, des défis. Et ce n'est pas des défis faciles. Voilà que quand je suis arrivée ce mercredi soir, l'heure du bilan avait sonné. C'était maman Ursule et papa Bissi qui menaient la réunion et qui sont les responsables du service matrimonial. Et chacun devait dire le bilan devant tout le monde des résolutions qu'ils avaient prises. Alors, voilà, je suis une femme, donc je relève ce qu'ont dit les papas. Les jeunes ont fait leur bilan, les mamans aussi, et voilà les papas. Alors, les papas ont été vraiment courageux et se sont mobilisés déjà pour faire des cellules de prière dans leur maison. C'était un de leurs objectifs, et ils ont pu dire, on a commencé des cellules de prière dans nos maisons. Puis, il y a eu encore 4 autres résolutions, mais ce n'est pas là mon propos. Mais une des résolutions était que les papas devaient prendre une fois par mois au moins un moment de qualité avec leur femme et de sortir avec leur femme en dehors de la maison. Et maman Ursule précise que une petite discussion dans la cuisine, ça ne compte pas. Il faut sortir avec sa femme. Et un papa lève courageusement le doigt et dit « Moi, j'ai réussi à inviter ma femme au restaurant et c'était déjà un effort, mais quand je me suis retrouvée face à elle, je ne savais pas quoi dire et donc c'était un peu raté. » Donc, c'était vraiment un défi difficile pour eux et peut-être ce serait aussi pour nous. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que moi, dans ma relation avec Dieu, il veut aussi des moments de qualité avec nous. Alors oui, il y a les moments où on est peut-être au travail ou dans la voiture, où on prie régulièrement au courant de la journée. Peut-être avons-nous aussi des moments de méditation le matin ou le soir. Mais parfois, il faut prendre plus de temps. Pour que notre cœur s'embrase, il faut se mettre à l'écoute du Seigneur et peut-être qu'il faudra parfois plus de 10 minutes. Oui, c'est lorsque nous prenons du temps pour méditer sur la vérité que notre cœur s'embrase. Verset 32, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Cette flamme intérieure était une émotion profonde et c'était l'enseignement biblique qui l'avait provoquée. L'amour du Christ nous presse. Et c'est après avoir réfléchi à cette œuvre extraordinaire de la rédemption par la croix du Christ que nous sentons notre cœur s'embraser pour le Sauveur. Jésus s'approche, accompagne, parle et agit. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent. Que faut-il pour que leurs yeux s'ouvrent? Des choses difficiles à mettre en œuvre? Des exercices? Non, tout est grâce. Seulement du temps mis à part pour faire route, parce qu'ils s'efforcèrent de le retenir. Quoi qu'il arrive, aussi profond que peut être notre désespoir, aussi grand que peuvent être mes défis, aussi fermés que peuvent sembler les issues, Jésus, c'est toi que je veux retenir. C'est toi qui prends toute la place, parce que tu es vie, bonté et souverain, et tu agis aujourd'hui encore. C'est alors que dans mon cœur se rallume ce feu, cette flamme, cette joie si profonde et extraordinaire qui me saisit au plus profond de mon âme, de ce Dieu vivant qui me rejoint, qui me parle, qui me fortifie. Et cette présence de Dieu qui se manifeste en nous, produit une joie profonde qui chasse le doute, renouvelle nos forces, me motive à son service, me conduit à m'approcher à mon tour de l'autre. Ce bonheur à vivre, est-ce toujours la devise de l'Église, est à partager. Ils retournèrent à Jérusalem pour raconter tout ce qu'ils avaient vécu. Alors nous aussi, soyons des témoins, au travail, à la maison, à l'église, dans la voiture, auprès de nos voisins, de cette vie en abondance que le Christ lui-même nous donne. Non pas des théories ou des discours moralisateurs, mais simplement ce que Dieu fait pour nous dans nos vies. À deux, les disciples sont ensemble dans la tristesse. Peut-être pourrait-on dire pas un pour attraper l'autre, les deux dans la tête dans le guidon, oui mais deux, à deux dans la tristesse de l'allée et à deux dans le retour, le cœur plein de joie. Nous avons besoin de l'autre et je dirais même que c'est une question de survie. Aujourd'hui, laissons encore ce texte nous parler, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie. Dans le découragement et l'exaucement de prières, partageons ensemble, cheminons ensemble. Que dans notre Église puissent s'épanouir les célibataires, les veufs, les veuves, les seuls et les couples mariés, non comme des catégories de personnes qui se côtoient, mais qui marchent ensemble. Oui, le soir, quand la solitude peut me saisir, je prie, mais je peux aussi appeler, téléphoner. Et cette communion fraternelle est une réelle force. Pour ceux qui ont des vies de famille remplies, aménageons peut-être parfois aussi un espace pour les personnes seules. Et je vais vous donner un petit témoignage qui m'a beaucoup émue. Quelques temps après le décès de Thierry, j'étais en état de choc. C'était une épreuve difficile. Et un soir, alors que je me couchais, une angoisse terrible m'a saisie. Une angoisse, j'aurais pu dire, une épouvante, à tel point qu'elle prenait forme humaine dans ma chambre et tout mon corps était paralysé. J'avais mon téléphone à côté de moi, toujours prêt à pouvoir téléphoner à l'un d'entre vous. Mais voilà, ce soir-là, mon corps de terreur ou d'épouvante était entièrement paralysé. Et je sentais toute une oppression dans mon lit. Et dans ce cas-là, je fais ce que fait tout le monde, j'ai prié. Et j'ai vraiment invoqué le nom du Seigneur Jésus de me délivrer, de me secourir, de venir auprès de moi. Mais hélas, l'épouvante et la terreur étaient de plus en plus fortes. Et je continuais en prière, et c'est alors que j'ai vu des dizaines de personnes autour de moi, des dizaines de personnes qui priaient, et qui louaient le nom de Dieu. Et quand j'ai regardé ces personnes, ce n'étaient pas des anges. Ce sont vos visages que j'ai vus. Ce sont vos visages qui, avec moi, étaient dans cette lutte. Et mon corps a pu se détendre, mon cœur a pu être en paix. Cette angoisse s'est évanouie aussi vite qu'elle est arrivée. Et ce jour-là, j'ai compris que je n'étais jamais seule. Alors oui, je sais le soin que vous prenez à la communion fraternelle. Je sais le soin avec lequel vous vous accueillez les uns les autres et c'est un témoignage visible pour tous ceux qui viennent. Mais cette communion fraternelle est aussi forte dans le monde spirituel parce que nous prions les uns pour les autres. Et donc nous continuons à toujours l'entretenir et la nourrir à deux, à l'aller, à deux. Au retour. En conclusion, quelles que soient les circonstances, Jésus nous appelle à la joie, à une vie pétillante. Nous en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église. Alors qui dit pétillante dit bulle. Alors pour certains bulles, ça évoque ceci, voilà, champagne, crémant. Mais à Dakar, je n'ai pas beaucoup d'alcool. Et une de mes joies à Dakar, ce sont les petites bulles de Facebook. Alors voilà les petites bulles de Facebook. Quand j'écris un message, eh bien il y a les petites bulles qui apparaissent. Et ces petites bulles, ça veut dire que quelqu'un est en train de m'écrire. Et plus j'attends, plus je vais avoir un message qui est long. Alors je suis impatiente et puis je me réjouis. Mais parfois je suis déçue et mon ami me fait une blague parce que tout d'un coup ça fait ploc, il n'y a rien. Ou alors j'ai OK. Donc je suis un peu déçue. Mais voilà, avec Jésus, il y a peut-être aussi ces petites bulles-là. Il est en train de nous dire quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose. Il nous écrit quelque chose. Peut-être nous ne le voyons pas tout de suite, mais avec lui, nous ne serons pas déçus. Encore, faut-il rester connecté, car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Oui, Jésus aujourd'hui est le vivant, le Verbe, la parole. Il me rejoint au plus profond de mon être, il me parle et agit. J'apprends à faire silence, à me remplir de sa présence, de son amour. Alors éclate ma joie d'être son enfant, d'être réconcilié avec mon Créateur. Et c'est cette joie qui est ma force et me permet de continuer ma route pour être une source de bénédiction autour de moi. Et j'accepterai de faire l'un ou l'autre détour pour accompagner l'un ou l'autre parce que Jésus marche lui-même à mes côtés. Amen.